Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Donc, héritier des promesses par la foi. Dis avec moi, héritier des promesses.
Héritier des promesses.
Par la foi. Et aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point. Comprendre le rôle et le but de l'administrateur royal. Dis avec moi, l'administrateur royal.
L'administrateur royal.
Ah, tu vas comprendre. Peut-être que le sujet te dit, mais de quoi il va nous parler là? Mais tu vas comprendre. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates au chapitre 4? Galates, chapitre 4, du verset 1 à 7. C'est un passage extrêmement important en ce qui concerne notre sujet. Que Dieu m'accorde la grâce de dire tout ce que j'ai à dire et qu'on puisse finir plus tôt aujourd'hui. Galates 4, du verset 1 à 7. C'est bon? Il dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Dis avec moi, héritier. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, dis avec moi, je suis fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Dis avec moi, je ne suis plus esclave. Mais fils, dis avec moi, je suis fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Dis avec moi, je suis héritier. Ah, j'aime ça. Je suis héritier par la grâce de Dieu. C'est un passage qui est fort. Hein? Ça, c'est un passage qui est très, très fort. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un jour, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a demandé, comment est-ce que je t'appelle quand tu lis la Bible? Je t'appelle comment? Est-ce que je t'appelle chrétien? Non. Chrétien, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Il est cité juste une fois. Si, une fois dans le livre des Actes, quand Philippe vient dire à Pierre, est-ce que tu sais comment les non-croyants nous appellent? C'est dans le livre des Actes. Et Pierre répond, comment nous appelle-t-il? Et Philippe répond, il nous appelle chrétiens. Pierre dit, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ceux qui croient en Christ, ceux qui suivent Christ. Eh bien, tant mieux, c'est la vérité, donc il nous appelle chrétiens. Mais nous, on ne s'appelle pas chrétiens. Nous, on nous appelle héritiers. Dis avec moi, je suis héritier. Depuis deux semaines, maintenant, nous rentrons dans la troisième semaine, nous sommes dans ce message héritier des promesses par la foi. C'est très important d'enseigner le message du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle. Pourquoi le message du royaume de Dieu est un message très important? Parce que c'est le message qui parle de ton identité, ta vraie identité. Ce que tu es réellement en Christ. En Christ, tu n'es pas chrétien. Bien que le mot chrétien ne soit pas mauvais, on peut t'appeler chrétien, il n'y a aucun problème avec ça. En Christ, tu n'es pas chrétien. En Christ, tu es fils. Tu es fils de Dieu. Dieu peut-il avoir des fils? Dieu peut-il avoir des enfants appelés fils? Eh bien, sache pour ta gouverne qu'il y a des religions qui refusent de croire que Dieu a des fils. Il y a des religions qui refusent de croire que Dieu peut engendrer des enfants. C'est ce qui crée le gros problème avec la personne de Jésus-Christ. Les religions comme telles que l'islam, etc., sont des religions qui refusent que Dieu puisse engendrer des enfants. Mais pourtant, c'est une vérité que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et même les Juifs en premier lieu, qui lisaient la Torah tous les jours et qui vont dans les synagogues, ont du mal à croire que Dieu peut engendrer des fils. Dis avec moi, je suis fils. Et pourquoi est-ce que la Bible t'appelle ici héritier? Pour la simple et bonne raison que Dieu dans la Bible est présenté comme le roi. Dis avec moi, le roi. Le fils du roi est appelé comment? Prince. Prince héritier. C'est-à-dire que cette histoire de trône-là, il n'y a que lui. Tu vois? Il n'y a que lui. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la Bible quand ils la lisent, c'est parce que la Bible ne te parle que de ça. La Bible ne te parle que de royaume. De A à Z, la Bible ne te parle que de royaume. Royaume, roi, héritage. Toi, tu l'as dit, mais moi, je suis au Gabon, je suis gabonais, on a nos problèmes. De quoi il me parle? Mais pourtant, c'est le message qu'il faut enseigner. C'est le message que tu dois entendre. Dis avec moi, je suis héritier. Donc, il y a deux semaines, on a parlé, on a d'abord dit que l'héritage est disponible, prends-le. La semaine dernière, nous avons abordé un autre point qui était la nouvelle naissance ou encore naître de nouveau, la condition préalable ou encore prérequis pour hériter. Parce que tout simplement, tu ne peux pas prendre possession de ton héritage, celui dont parle la Bible, et on verra ce qu'est l'héritage. Tu ne peux pas prendre possession de ton héritage véritablement tant que tu ne nais pas de nouveau. On ne peut pas parler d'héritage, comme je suis en train de parler là avec vous, dehors, n'importe comment. Les non-croyants vont te regarder et vont dire, tu es fou. Un non-croyant, ceux que vous croisez tous les jours dehors, lorsqu'il nous entend parler comme je parle, il dit, mais de quoi il parle? Il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle de Dieu et roi, héritage. Franchement, Alice au pays des merveilles, quoi. De quoi il parle? Mais pourtant, je ne suis pas fou. On n'est pas fou. C'est la vérité. Dieu est roi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est roi. Quand Jean, dans le livre, le premier livre d'Apocalypse, Jean, qui a été exilé sur l'île de Patmos, a une vision. Il a passé 3 ans et demi avec un homme qu'on appelait Jésus, qui est mort, tout ça, et qui est ressuscité. Ils l'ont vu après, ils l'ont vu monter au ciel, tout ça. Et puis là, il voit quelqu'un. Il dit, je voyais quelqu'un qui brillait, qui rayonnait. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Entre ses mains, il avait comme une épée. Il était vêtu comme ci, comme ça. Ça m'éblouissait, etc. Et là, j'entendis une voix qui dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis celui qui vit. Celui qui tient les clés du séjour des morts. Je suis Alpha et Oméga. Chapitre 22, le commencement et la fin de toute chose. Cette histoire de éternité là, moi, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis Dieu. Je suis celui qui t'a créé. Et je suis le roi. Et tu es mon fils. Donc, quand Jean voit ça, Jean dit, ah, c'est pas le Jésus que j'ai connu là. Là, il voyait Jésus dans sa forme glorifiée. Là, ils voyaient le vrai Jésus. Parce que celui avec qui ils ont été pendant 3 ans, c'était le vrai Jésus, mais ils ne l'ont pas vu dans sa forme glorifiée. Et là, il s'est dit, ah, mais si je savais depuis 3 ans que la personne avec qui je marchais là, c'était ça, c'était lui. Mais ma vie aurait été transformée. Et c'est ça que souvent qui nous arrive hein, quand on est avec le Seigneur. On vient à l'église, mais je t'assure, si Dieu te montre réellement qui il est, ou bien qui tu es, tu vas changer. Si Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu vois la réalité de qui il est, de qui tu es et du pouvoir que tu as entre tes mains. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait, tu sais, les gens qui font la sorcellerie, là, dehors, là, nous, on est là, on prie. Pendant qu'on prie, toi, tu es là, assis. Franchement, qu'ils finissent, là, qu'ils fassent vite. Et quelqu'un me disait, tu sais, il me disait, quand vous êtes en train de prier, là, nous, dans l'esprit, on voit une grande lumière au-dessus de vous. Qui émet cette lumière? C'est nous, par nos prières. Donc, quand vous êtes dans la, quand vous priez, vous êtes en train de dégager quelque chose. Il y a quelque chose, il y a la lumière. Et plus vous intensifiez, plus la lumière s'intensifie et les ténèbres s'écartent. Ça, c'est le pouvoir que nous avons en tant que fils, de par notre nature divine. Parce que nous sommes participants de la nature divine. Dis amen avec moi.
Amen.
Nous sommes participants de la nature divine. Dieu a mis ses gènes en nous. C'est pour ça que Pierre, dans le premier livre de Pierre, il dit, nous avons été régénérés. Nous sommes fils. Donc si nous sommes fils, le sang qui coule dans tes veines, là, c'est le même sang qui coule dans les veines de Jésus. Et si Jésus, pendant 33 ans de sa vie sur terre, n'a jamais connu la maladie, tu refuses la maladie. Si elle vient se présenter, par la foi, tu prends ton héritage et tu dis au nom de Jésus-Christ, elle va sécher dans mon corps. Et si tu es un avec le Seigneur, je t'assure, tu es capable d'expérimenter ce miracle. Amen.
Amen.
Ouais. Et il y a encore plein d'autres choses à dire à ce sujet. Donc, l'héritage est disponible. Et aujourd'hui, je veux me focaliser sur un point. C'est celui qui est cité ici lorsqu'il dit, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il y a deux mots ici qui ont attiré mon attention. C'est le mot tuteur. Dis avec moi tuteur. Et administrateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'administrateur. Le tuteur, c'est une autre histoire. Ah. Vous savez, c'est qui le tuteur royal, non? Hein? Ah, j'aime ça. Donc, il y a, entre le jour où tu nais de nouveau et le jour où tu entres en possession de ton héritage, il y a un laps de temps. D'accord? Il y a un laps de temps. Et durant ce laps de temps, il y a deux personnes qui jouent un rôle capital, c'est le tuteur et l'administrateur. Le tuteur, qui est Sa Majesté le Saint-Esprit, est chargé de ton éducation pour que tu puisses savoir gérer ton héritage quand tu l'auras entre tes mains. Pour que tu puisses entrer en possession de ton héritage, il faut que tu sois mature spirituellement et que tu aies la mentalité du royaume. Tant que tu ne penses pas comme un roi, tu ne peux pas régner. Régner où? Régner sur qui? Eh bien, le règne dont parle la Bible, ce n'est pas le règne sur des hommes. C'est le règne sur la vie. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible, régner dans cette vie. Comment est-ce qu'on règne dans cette vie? Eh bien, on règne sur les circonstances, on règne sur le temps, on règne sur les maladies, on règne sur les démons, on règne, tiens les démons eux, on règne sur eux. Le jour où il y a un démon devant toi, quelqu'un qui est possédé d'un démon, et puis tu fuis, c'est que tu es un enfant. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Parce que une personne qui est en Christ, remplie du Saint-Esprit, ne peut pas fuir devant un démon. Si un sorcier vient se présenter à ta maison et menace ta famille, je vais tous vous tuer dans le spirituel. Tu dis, tiens, prends même mes habits, prends même mes cheveux, va me chercher. Non seulement tu ne vas pas me trouver, mais c'est Jésus que tu vas trouver là-bas. Amen. Là, je commence à dire des paroles. Tu es en train de dire, mais, ah, pasteur, va là-bas doucement. Il ne faut pas chercher des problèmes. On ne cherche pas les problèmes. C'est ce que tu es. Il y a une différence. Quand tu vois un esclave marcher et un roi, quelqu'un qui sait qui il est, regarde comment il marche. Il regarde comment l'esclave marche. L'esclave marche toujours comme ça là. Le roi, il marche toujours la tête haute. Pourquoi? Parce que le roi sait qui il est et il sait le pouvoir qu'il a entre ses mains. L'esclave, il a peur. Ça, on va y revenir. Et donc, le laps de temps, là, entre ta nouvelle naissance et le jour où tu rentres en possession de ton héritage, il y a deux personnes. Un, le tuteur royal qui est là pour ton éducation, et deux, l'administrateur royal. Dis avec moi l'administrateur royal. Et l'administrateur royal, il a un rôle extrêmement important. Il a un rôle très important. Un enfant qui est ignorant de son héritage ne peut pas entrer en possession de celui-ci. Si dans la maison il y a des biens qui sont à toi, mais que ton processus de maturité n'est pas arrivé à son terme, l'administrateur royal ne peut pas te remettre les clés. Qui est l'administrateur royal? Vous avez compris? C'est qui? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. On joue sur les mots, hein. C'est les mêmes personnes, c'est vrai. Mais j'essaie de vous emmener dans une image. D'accord? Donc l'esclave peut connaître l'existence de l'héritage, mais il ne peut pas y avoir accès. Je vais me focaliser un peu sur la différence entre l'esclave et l'héritier. L'esclave peut connaître l'existence de l'héritage, mais il ne peut pas y avoir accès. Et l'enfant, lui, même s'il est l'héritier, il ne peut pas aussi avoir accès à cet héritage parce qu'il ignore qu'il est héritier et parce qu'il n'est pas mature. Amen. L'âge légal, atteindre l'âge légal, c'est le plus grand désir d'un papa pour son fils. Hein? S'il y a bien une chose qu'un père désire le plus, c'est de voir son enfant grandir vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, le père, il veut libérer l'héritage. Il n'y a rien d'agréable pour un père de garder l'héritage pour lui. Au contraire, ce que nous, on veut, c'est voir notre enfant jouir tous les jours et vivre comme nous. OK? Donc, tant que l'enfant n'est pas arrivé à maturité pour prendre possession de son héritage, il ne peut pas. Et ça frustre le papa quand ça prend trop de temps. C'est pour cela que la parabole du fils prodigue que Jésus-Christ a racontée, vous vous rappelez le fils prodigue? Un père avait deux fils, livre de Matthieu. Un père avait deux fils. Et un beau matin, l'un des fils vient dire à son père, « Père, aujourd'hui, je veux mon héritage. » Qu'est-ce que le père a fait? Le père a pris, la Bible dit que le père a séparé l'héritage et il a donné sa part à l'enfant qu'il a demandé. À l'autre, il n'a pas donné, parce que l'autre n'avait pas demandé. Il prit son héritage, il alla s'amuser avec, et il alla même jusqu'à dormir au milieu des cochons. Quand il s'est retrouvé à dormir au milieu des cochons, après avoir fait la fête avec les femmes, il a bringué toute la vie. Un jour, il s'est retrouvé dans la saleté au milieu des cochons. Il s'est dit, gars, je suis quand même prince, fils du roi, je dors au milieu des cochons, attends. Et là, il réalise. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est parce que tu fais la bringue et que tu dépenses tout l'héritage que ça t'enlève ton identité de fils? Non. Tu es toujours le fils. Hein? Le père t'a donné ta part de ton héritage, mais le papa est toujours vivant, l'héritage, il peut encore te donner plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, même les serviteurs de mon père ont à manger. Moi, je suis là, je n'ai même pas une broutille. Je retournerai chez mon père. Et je lui dirai, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et le ciel. Et c'est ce qu'il fait. Et quand il s'en va, comment le père l'accueille? Le père dit, oh mon fils, tu es revenu à la maison. Regardez l'autre frère, son frère. Son frère, lorsqu'il apprend que son petit frère est revenu et que le père a décidé de faire une fête, le revêtir d'un habit royal, lui mettre la bague royale au doigt, etc., l'autre frère se met en colère. L'autre frère se met en colère et regardez ce qu'il dit à son père. Il dit à son père, le père dit, mais pourquoi te mets-tu en colère et ne veux-tu pas rentrer dans la maison pour faire la fête avec nous? Hein, mon fils? Et le frère dit, attends, moi je suis avec toi tous les jours ici. J'ai travaillé sans relâche pour toi toute ma vie. Et tu n'as jamais daigné me donner quoi que ce soit. Mais à lui, mon petit frère, à lui qui a pris l'héritage de force, qui a bringué, qui l'a dépensé, tu as tué le veau gras pour lui et tu fais la fête. Et puis le père dit, mais ton frère, on fait la fête parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. Et toi, tu es avec moi ici tous les jours. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi, C'est pourquoi le père lui dit ça. Le père lui dit, mais ce qui est à moi est à toi. Si tu veux prendre, tu prends. Pourquoi tu te fâches? Est-ce que moi, un jour, je t'ai empêché de prendre l'héritage? En fait, le fils ne réalisait pas que l'autre avait compris avant que, mais je suis fils, ça m'appartient. Tu sais, regarde, une fois, la première fois que j'ai conduit de ma vie, ma mère était à la douche, j'avais 15 ans. Ma mère était à la douche et j'attendais qu'elle finisse de se laver pour qu'elle m'emmène à l'école. À l'époque, je me rappelle, j'allais au lycée Mba. Et pendant que j'attendais, j'en avais marre d'attendre, donc est-ce qu'elle prenait son temps pour se préparer, la voiture était garée là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les clés au salon, et puis je suis monté, j'ai démarré, et je suis parti avec la voiture. Ma mère, j'ai tourné, je suis venu au quartier, tout ça. J'ai tourné pendant à peu près une quinzaine de minutes, et je suis revenu. Quand je reviens, je la trouve, elle est debout, devant le portail, avec un grand sourire. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu conduis maintenant, toi? Hein? Tu prends ma voiture, comme ça. Et je lui réponds, mais c'est aussi ma voiture? Elle dit, ah, j'ai dit, c'est aussi ma voiture. Ce qui est à toi est à moi. Imagine, tu vis dans la maison avec ta maman et ton papa, et puis à chaque fois que tu vas aller au frigo prendre un verre de jus, papa, je vais aller prendre le jus. Tes parents, au bout d'un moment, ils vont te regarder bizarre. Ils vont te dire, mais est-ce qu'il va bien? Parce que depuis quand il nous demande la permission maintenant pour aller se servir? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'était ça la différence entre les deux. C'est que l'autre avait compris qu'en tant que fils, il a accès à l'héritage. Dis avec moi, l'héritage est disponible. Le problème, c'est que tant que tu n'es pas arrivé à maturité spirituelle pour pouvoir entrer en possession de ton héritage spirituel, il y a quelqu'un qui se dresse entre toi et ton héritage qui s'appelle l'administrateur royal. Dis avec moi, l'administrateur royal qui est appelé Jésus. Jésus-Christ est l'administrateur. Et la Bible l'appelle aussi le médiateur. Médiateur veut dire middle, au milieu. C'est lui qui se tient. Donc, si tu veux avoir accès à ton héritage, tu es obligé de passer par lui. Ok? Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, au verset 15, elle nous dit ceci. Livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 15. Elle dit, et c'est pour cela qu'il, Jésus, c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Une fois que tu as atteint l'âge requis, tu peux aller voir cette personne appelée le médiateur ou encore l'administrateur royal et lui dire, administrateur, c'est bon, il est temps. Je veux entrer en possession de mon héritage. Et l'administrateur royal va s'assurer d'un certain nombre de choses avant de te le donner. Ok? Donc, il suffit juste que tu viennes révéler ton identité. C'est comme quand ton père, avant de partir, a laissé l'héritage au milieu d'un notaire, entre les mains d'un notaire, et puis le notaire ne t'a jamais vu. Mais par contre, le notaire sait que le père a un fils quelque part. Et un jour, quelqu'un débarque chez lui et vient lui dire, je suis le fils, je veux entrer en possession de mon héritage. Il y a un certain nombre de choses qu'il va faire avant. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais à l'école, j'ai étudié un livre que peut-être certains d'entre vous ont lu à l'école. Bon, moi, je suis allé à l'école très petit dans les écoles françaises ici, là. Hein? C'est peut-être à cause de ça que je ne connais pas trop l'histoire gabonaise. Et on m'a fait lire un livre que je n'ai jamais oublié de ma vie. Ce livre, le titre, c'était Pierre et Jean. Vous connaissez ce livre? Pierre et Jean de... Je crois que c'est pas Montesquieu. Et en fait, pourquoi j'ai jamais oublié cette histoire? Pourtant, j'ai lu ça très petit. Pourquoi? Parce que ce livre raconte l'histoire d'un monsieur qui est avec une femme. D'accord? Et puis, avant, quand ils étaient encore jeunes, et avant de se marier, la femme est partie à Paris. Elle est partie à Paris pendant quelques temps. Et quand elle revient, dès son retour, il se marie. D'accord? Il se marie. Et tout de suite, elle devient enceinte et elle donne naissance à un enfant quelques mois plus tard. Et ensuite, ils ont un deuxième enfant. Et des années plus tard, un monsieur vient frapper à la porte. Et ils sont là à la maison. Et à la porte se présente un notaire. Et le notaire entre et le notaire demande, je voudrais voir un monsieur qui s'appelle Jean. Oui, c'est lui, c'est notre fils. Ok, tenez monsieur, cette lettre est pour vous. Et la lettre dit, rendez-vous chez le notaire dès demain matin, c'est extrêmement important. Ah, tout le monde est intrigué. Il va au rendez-vous chez le notaire et quand il arrive devant chez le notaire, tout seul bien entendu, le notaire lui dit, votre père vous a légué un riche héritage, vous êtes héritier, vous êtes multimilliardaire d'un grand héritage. Il dit, quoi? Mais mon père, il est là mon père, qu'est-ce que vous me racontez? Non, celui qui est là-bas, ce n'est pas ton vrai père. Et en fait, il y a tout un chamboulement parce qu'en fait, l'histoire révèle que la maman, en fait, quand elle est partie à Paris, elle a eu une relation avec quelqu'un et quand elle est revenue, en fait, elle n'a jamais dit à son mari qu'elle avait eu une relation avec quelqu'un et elle était devenue enceinte de ce monsieur-là. Donc, ça crée des problèmes, adultère dans la maison, le petit frère là-bas se fâche, etc., etc. Mais lui, en fait, il vit mal, pas à cause du problème qu'il y avait eu entre sa mère et son père, mais il vit mal parce qu'en fait, quand il reçoit cette révélation-là, il a près de 50 ans. Et son père est décédé depuis plus de 30 ans. Et le notaire a passé toute la vie à le chercher. Et il est mal parce qu'il a vécu toute la vie misérablement alors qu'il avait un héritage. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et le médiateur, s'il le connaissait, il serait simplement allé se présenter en disant, voici, je veux mon héritage. Dis avec moi le médiateur. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Hébreux, chapitre 8, au verset 6, la version française courante, elle dit, mais maintenant, Jésus, dis avec moi Jésus, a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Jésus-Christ est le médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Il y a 5 choses à savoir au sujet d'un médiateur. 5 choses en tout cas que je peux énumérer ici. La première, c'est que le médiateur est celui qui détient les clés qui te donnent accès à ton héritage. Ok? 1. 2. Le médiateur est celui qui veille sur ton héritage et assure sa sécurité. 3. Le médiateur travaille en étroite collaboration avec ton tuteur et ne peut pas te donner accès à l'héritage sans l'accord du tuteur. Donc, le tuteur est très important. L'administrateur, lui, ne te voit pas tous les jours. Il ne sait même pas ce que tu fais la journée, etc. Il sait juste que tu passes du temps avec quelqu'un qui est ton tuteur. Et le tuteur doit signer un document pour lui dire qu'il est apte à entrer en possession de son héritage. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de promesses que beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas que Jésus... Parce que tout simplement, lorsque Jésus-Christ veut le leur donner, le Saint-Esprit dit non. Ne lui donne pas à lui. Il n'est pas prêt. Vous me suivez? Le Saint-Esprit, qui est le tuteur royal, est extrêmement important. Il ne faut pas blaguer avec lui. Le Saint-Esprit, c'est un tuteur. Et le tuteur, en général, il ne parle pas beaucoup. Parce que le tuteur royal, il sait qu'en face de lui, c'est le prince. Donc, on ne bouscule pas le prince. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il te fait des mises en garde, il te dit, arrête ça. Tu ne veux pas écouter. Il n'insiste pas. Parce qu'il ne veut pas brusquer le fils du prince, le fils du roi. Donc, quand tu te casses les dents, son rôle, c'est de te relever. Il est là pour ça. C'est son rôle, le Saint-Esprit. Mais il ne parle pas beaucoup. Il est juste là pour veiller sur toi. Dès que l'ennemi veut te toucher, le Saint-Esprit bloque. Il dit non, lui, on ne touche pas. Il prend du temps pour t'enseigner au travers de la parole de Dieu. Il t'accompagne. Il est avec toi tout le temps et c'est pour cela que Jésus-Christ dit que le plus grand de tous les péchés, c'est attrister le tuteur royal, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lorsque tu attristes le tuteur royal et qu'il s'en va, tu es perdu. Non seulement tu ne peux plus entrer en possession de ton héritage, mais en plus tu te retrouves seul. Et lorsque tu te retrouves seul, eh bien l'ennemi a un boulevard devant lui pour venir te faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est extrêmement important. Même quand tu regardes les films sur la royauté, même là où tu dors, le tuteur royal est juste à côté. Quand tu montes dans la voiture pour aller quelque part, le tuteur royal est toujours à côté de toi. Lorsque tu vas où que tu ailles, il est à côté de toi. Étudie un peu les histoires des princes dans la vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait toujours quelqu'un ou quelques personnes qui étaient avec eux en permanence. Et lui, il est là pour donner le go à l'administrateur. OK? Le médiateur 4 veille à ce que ton héritage te soit restitué dans son intégralité. Et 5, le médiateur s'assure que tu es bien le fils de ton père et que tu portes bien son nom. Le médiateur s'assure que tu es bien le fils. Parce que lorsque tu viens présenter ta carte d'identité, le médiateur va s'assurer que tu es bien le fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ton éducation royale, c'est la responsabilité du tuteur. Par contre, te remettre ton héritage, c'est l'administrateur Jésus. Et le nom que tu portes, l'administrateur, il va s'assurer que tu portes le bon nom. Vous me suivez? C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, vous connaissez ces passages, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, au verset 23, il rajoute, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi Jésus-Christ précise ici en mon nom? Parce que tout simplement, la particularité de notre administrateur royal, Jésus, c'est qu'il est en même temps notre frère, il fait partie de la même famille que nous. Donc, il porte le même nom. Donc, cette histoire de nom-là, c'est le plus grand pouvoir que nous avons entre nos mains. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu déclenches quelque chose de très puissant. Amen. Dis avec moi, je possède mon héritage au nom de Jésus-Christ. Comment faire pour connaître ton héritage? Il faut que tu entres dans ce qu'on appelle la révélation de la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu tous les jours est quelqu'un à qui Dieu peut révéler la nature de son héritage. Celui qui ne s'instruit pas sur la pensée de Dieu, sur la pensée du royaume, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la volonté de Dieu, ne peut pas connaître qui il est et quel est son héritage, et il va vivre misérable toute sa vie. C'est pour cela que le jour où j'ai compris une des promesses de la Bible qui dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, Jésus-Christ, afin que nous soyons enrichis. Quand j'ai étudié ce passage-là, au début je me disais, oh ça parle des promesses spirituelles. J'ai découvert que ce passage parle d'argent. Et quand j'ai compris que ce passage était une promesse biblique de la Nouvelle Alliance et qu'elle parlait de l'argent, j'ai dit, mais en fait, Seigneur, en tant que fils du roi, je ne peux pas être pauvre, en fait. Tu as déjà vu un prince qui est pauvre? Non, franchement, si tu rencontres un prince qui est pauvre, fuis-le. C'est qu'il y a un problème quelque part. Un prince ne peut pas être pauvre. Peut-être que tu ne vivras pas multimilliardaire sur la terre, mais le Seigneur dit que tu ne seras jamais dans le manque. Et si tu vis une situation de manque, alors que de par ta filiation de fils, tu es censé être dans l'abondance, alors ça veut dire qu'il y a des promesses que tu n'as pas encore saisies, ou bien ton intelligence financière n'est pas encore suffisamment développée. C'est pour ça que quand l'argent arrive entre tes mains, il repart tout de suite. Je t'assure, on monte, on descend. Tu n'as pas l'intelligence financière qu'il faut. Je te donne là 1 milliard, tu vas les gaspiller. Je te donne 1 milliard, on se revoit dans 10 ans, tu seras au même point. Je t'assure, qui dit jamais ici? Tu seras au même point. Mais je vous assure, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent au loto en Europe. Nous, on parle en France CFA. Il y en a, ils ont gagné des histoires de 30, 40 millions d'euros. Ils ont sauté, ils ont fait la fête. Et aujourd'hui, ils sont redevenus pauvres. Dis-moi, comment il a fait? Quand tu le vois, tu as envie de lui mettre une gifle. Dis-moi, comment tu as fait? La dernière fois, je vous ai dit que l'ancien boxeur Mike Tyson a gagné 350 millions de dollars dans sa vie. Et aujourd'hui, il est plus pauvre que pauvre. Comment il a fait? Il avait une voiture pour chaque couleur de ses costumes. Il avait beaucoup de costumes, rouge, bleu, blanc, noir, gris. Et il avait une voiture pour chaque couleur. C'était arrivé à un niveau d'opulence. C'est-à-dire, quand il met le costume noir, je dis, le chauffeur, n'a même pas besoin de lui demander quelle voiture on prend. Il sait que c'est la voiture noire qu'on prend. Il faut que la voiture soit assortie avec le costume. Gars, le jour où tu arrives à ce niveau de t'assortir avec une voiture à chaque fois que tu t'habilles, reste à l'église ici. Hein. Tu es une grande bénédiction pour l'église. Hein? Bon, si toi tu auras la voiture, peut-être que l'autre aura l'hélicoptère. Tu seras peut-être comme le sportif d'Eco qui se déplace en hélicoptère. Hein? Ça, c'est grave. Hein? Un jour, je regardais ce reportage à la télévision sur Trace Sport, et puis le monsieur, il se déplace qu'en hélicoptère. J'ai dit, il y en a vraiment... C'est autre chose, tu vois, non? Toi, pendant que tu attends le taxi sous le soleil, il se déplace en hélicoptère, tu vois? Non, il y en a, c'est autre chose. Donc, la révélation de la parole, dis avec moi, la révélation de la parole est très importante. Donc, assure-toi, avant de prendre le temps d'entrer en possession de ton héritage, assure-toi de bien comprendre exactement de quoi il s'agit. La révélation de la parole est le moyen ou encore le canal par lequel tu prends connaissance de ton héritage. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Josué au chapitre 1 que cette loi, cette parole, tu la médites jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous connaissez ce verset, non? Mais David nous dit autre chose dans le psaume 119, au verset 130. David nous dit, la révélation de tes paroles est claire. 119, au verset 130. La révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Elle donne de l'intelligence aux simples. Plus tu entres dans la parole de Dieu, et plus tu deviens intelligent. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il y a une promesse de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ qui s'appelle la sagesse. Dites-moi la sagesse. La sagesse, c'est tout. La sagesse, c'est la clé de la percée. La sagesse, c'est la clé de la créativité. La sagesse, c'est la clé de l'abondance. La sagesse, c'est la clé pour prospérer, pour être heureux. C'est pour ça que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, « Mon fils, cherche la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Elle mettra une couronne sur ta tête. Elle mettra un diadème autour de ton cou. Elle te fera vivre de longs jours. La sagesse, dis-moi la sagesse. » Quand j'ai étudié l'histoire de Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, je me suis rendu compte que ce jeune homme, à l'âge de 20 ans, après avoir fait une offrande insolente à Dieu, Dieu se présente à lui une nuit et Dieu dit, « Petit, qu'est-ce que tu veux ?» Et il a dit à Dieu, « Donne-moi la sagesse. » Ah ! Le jour où Dieu se présente à toi, tu vas lui demander la sagesse. Tu vas lui demander autre chose, mais certainement pas la sagesse. Quelqu'un se présente dans ta chambre la nuit et puis il dit, « Je suis Dieu, demande-moi ce que tu veux. » Tu vas d'abord penser à tous tes problèmes de famille, toutes tes galères. Tu vas dire, « Oh Dieu, aujourd'hui là, on règle nos comptes. » Lui, il demande la sagesse. Je suis sûr que peut-être il y avait des gens qui guettaient derrière lui, mais qu'est-ce qu'il demande ça? Il est fou, quoi. Dieu lui demande ce qu'il veut. Parce qu'il avait compris que la sagesse allait lui permettre d'amener la prospérité dans le royaume. Ils en étaient arrivés à un niveau où même les cailloux qu'on ramasse par terre, c'était l'or. C'était grave, hein? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il est arrivé à un niveau de connaissance dans le monde des affaires et du business, qu'il commençait à marchander avec les Syriens, avec les Égyptiens, etc. C'était grave, Salomon. Tout le monde avait entendu parler de lui, de sa sagesse. Et s'il y a bien une chose que tu dois demander à Dieu, c'est la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sagesse. Des choses simples. Une fois, je suis allé me faire soigner chez un médecin. Tu rencontres le médecin, il est médecin. Il se soigne, il sauve des vies et il traite des gens qui ont le cancer. Mais quand il est fatigué, il dit à sa secrétaire, je prends une pause. Et quand il prend la pause, il va à la porte et il sort une cigarette, il fume. Mais c'est lui qui soigne les gens. Mais lui-même, il fume. Et ça va lui donner la maladie qu'il soigne. Est-ce qu'il est sage? La Bible l'appelle insensé. Jésus-Christ nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Comment tu acquiers la vérité? Par la connaissance. Et la connaissance, tu l'acquiers où? Dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer tous les jours. Et ton héritage ne peut être trouvé que dans la parole de Dieu. Et c'est seulement à partir de la révélation des Écritures que tu peux tirer ton héritage et l'amener à l'existence. Et si Dieu dit à Josué dans Josué 1:8, médite ce livre, c'est alors que tu auras du succès. Pourquoi ? Parce que le succès, c'est ce qu'on veut. C'est alors que tu réussiras. Dis avec moi, je vais réussir. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que ta retraite soit assurée, Dieu veut que tu ne soupires pas après lui quand, à cause, parce qu'il te manque ceci, il te manque cela. Dieu veut que tu vives de longs jours, que tu vois les enfants des enfants de tes enfants. Dis amen avec ça, à moi. Oui, tu vas voir les enfants des enfants de tes enfants, au nom de Jésus. Ah oui. La révélation, c'est la connaissance de ce que Dieu te demande. Lire la Bible va te donner de l'information. Okay? La méditation va t'amener à la révélation. Et la révélation va te donner les moyens pour saisir la chose. Parce que tu lis, ça ne t'amène pas à prendre possession de ton héritage. Mais quand Dieu te révèle que c'est comme ça qu'il faut faire, ah, là tu as la clé. Là tu as la clé. Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que ton héritage, l'héritage qui t'attend est un héritage de grande bénédiction. Et les bénédictions qui sont contenues dans ton héritage, le jour où tu les saisiras et que tu commenceras à les vivre, tu n'as jamais vu quelqu'un, quand tu le vois, tu sais juste qu'il est béni. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir une belle voiture ou une belle maison. C'est-à-dire, il y a des gens, tu les vois, ils ne sont pas dans l'opulence, hein, mais tu sens qu'ils sont bénis. Tu sens que la grâce est sur eux. Tout ce qu'ils font réussit. La Bible dit dans le livre de Exode que quand Joseph a été vendu à Potiphar en esclavage par ses frères, il y a un verset, je ne me rappelle plus la référence, qui dit « La prospérité était attachée à ses pieds. » Quand tu es un enfant de Dieu en Christ, la prospérité est attachée à toi. Amen. Dis avec moi, je suis béni en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:3, ça c'est l'un des versets qui a changé ma vie. Ce verset a bouleversé ma manière de voir. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Qui nous a bénis. Et vous savez, vous me connaissez, j'aime toujours aller plus loin. Version français courante, elle dit, le même verset, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Toutes les bénédictions. Essaie d'imaginer la grandeur du ciel. Dieu dit, il t'a donné ça. Mais la version parole vivante, elle est encore plus explicite et plus puissante. Elle dit, loué soit Dieu. Dis avec moi, loué soit Dieu. Ah, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé, dis avec moi, il a déversé. D'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Ah, dis avec moi, waouh. En fait, c'est comme si le grand Dieu a pris un seau rempli, pas d'eau, de bénédiction, pas d'eau bénite, hein, de bénédiction. Et puis il a pris le seau d'eau, il a versé sur toi. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est quelque chose qui est accompli. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent te voir et puis ils te disent, « Pasteur, est-ce que je suis maudit ?» Parce que quand je vois ma vie, vraiment, on dirait que je suis maudit. Je le regarde, je dis, voici quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il est prince héritier et qu'il est béni. Et je veux te dire autre chose. La bénédiction qui est sur toi, tu sais comment, quand il dit je vous ai béni, tu sais comment Dieu appelle cette bénédiction-là? Dieu appelle cette bénédiction dans la Bible, la bénédiction d'Abraham. Et tu sais c'est quoi la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'est cette bénédiction que Dieu a prononcée sur lui et sur toute sa postérité lorsqu'il dit « Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. » En fait, quand quelqu'un te regarde et puis te dit « Sois maudit », c'est comme s'il prend un caillou et puis il lance ça sur lui et puis ça revient bam, bam, sur lui-même. Tu ne peux pas être maudit. Quand Dieu a béni, il a béni. C'est pour ça que Balaam, lorsque Amalek vient le voir, Amalek lui dit, maudit le peuple de Jacob là. Balaam fait, bon, je regarde ce peuple, mais en fait, je ne peux pas le maudire. Il est tellement béni. Non, on peut maudire un peuple comme ça, tu vois. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te faire du mal et qu'il veut toucher à ta vie, dis-lui, n'essaie pas où. Si tu fais ça, c'est suicide. Parce que celui qui touche à un enfant de Dieu, il a problème avec papa Dieu. Celui qui te cherche des problèmes va trouver Dieu sur son chemin. Tu sais ça? Au nom de Jésus. Il faut que tu y crois à ça. Amen. On avance, on a bientôt fini. Donc, c'est très important de comprendre ça à ton sujet et au sujet de ton héritage. Dis avec moi la bénédiction d'Abraham. Et si tu ne peux pas voir, si tu ne peux pas comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'héritage, tu ne peux pas entrer en possession de ça. Amen. Ce qui est très important ici, c'est de comprendre ce qu'est ton héritage et surtout qu'il est disponible. Et Dieu, c'est pour ça qu'au travers de la parole, Dieu va te donner beaucoup d'images, Dieu va commencer à t'expliquer beaucoup de choses. Paul prenait le temps d'expliquer aux gens pour que les gens commencent à voir des choses dans leur esprit et commencent à réaliser et à croire que, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui est disponible pour nous. Amen. Pour revenir un peu sur Abraham. Abraham, c'est ce qui lui est arrivé. Abraham était fils de Dieu. Il ne le savait pas. Abraham avait un héritage qui était disponible pour lui. Il ne le savait pas. Et Abraham ne voyait rien. Et quand Dieu décide un jour de dire, bon, le gars là, si je le laisse là, je ne me rappelle plus là où son père est mort, là où Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, etc. Si je le laisse là, il va finir sa vie misérable. Donc Dieu se révèle à lui et Dieu dit, quitte ta famille, quitte ta patrie et va-t'en vers le pays que je te montrerai. Quand il s'en va, il prend qui? Il prend Lot. Vous connaissez l'histoire ou pas? Il prend Lot. Et quand on va chercher dans la Bible en hébreu, vous savez ce que veut dire Lot? Lot veut dire le voile. En fait, il venait de prendre quelqu'un qu'il avait voilé. Donc, il était quand même parti parce qu'il avait obéi, mais il était encore voilé à cause de Lot. Dis avec moi, Lot. Et Dieu dit, Dieu met les mains sur la tête. Dieu dit, mais le gars là, je dis de partir, de laisser sa famille, prends encore Lot. Et Lot l'aveuglait. Lot l'empêchait de voir son héritage. Lot le ralentissait. Lot l'empêchait d'aller de l'avant. Et tout commence avec Lot. Mais heureusement qu'il s'est séparé de Lot. Et toi aussi, il y a des Lot dans ta vie. Il y a des gens ou des choses ou des activités qui t'empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et ces Lot-là, tout comme Abraham a fait, tu dois t'en séparer. Amen. Tant que Lot était avec Abraham, Abraham ne pouvait pas entrer en possession de son héritage. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et il y a des gens, ou bien quelqu'un, ou bien une activité. Tu sais au fond de toi que chaque fois que tu as envie de suivre le Seigneur, ça te bloque. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des activités, une activité ou une personne. Je t'assure, le moment venu, tu vas devoir choisir entre cette personne ou le Seigneur. Ouais. Abraham était très attaché à son Lot. Il était très attaché à Lot. Mais il a dû choisir entre Lot et Dieu. Et il a choisi Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et pour finir, je vais te donner 10 bénéfices, si je peux appeler ça ainsi, qui vont t'arriver dans ta vie si tu te sépares de ton Lot pour aller vers ton héritage. Parce que Lot, c'est un peu cet obstacle-là qui se tient entre toi et ton héritage. Le jour où tu te sépares de ton Lot, le départ de ton Lot te permettra d'entrer premièrement dans la terre promise. Ça, c'est un. Deux, le départ de ton Lot augmentera la confiance de Dieu envers toi. Parce qu'enfin, tu lui as prouvé que tu voulais vraiment le suivre. Le départ de ton lot te permettra de marcher plus vite vers ton Canaan, vers ta terre promise. Parce que ton lot, cette personne-là, ou cette activité, cet obstacle-là te ralentit. Et tu vas devoir le laisser pour aller plus vite. Le départ de ton lot 4 te permettra de mieux discerner la voix de Dieu quand il te parlera. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils sont à côté de toi, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Ou des activités. Et le jour où Abraham s'est séparé de Lot, je vous assure, le soir même, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit, Abraham, je suis ton bouclier. Ah. Mais tant que Lot était là, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Amen. 5. Le départ de ton Lot réduira de manière significative les frustrations et les moments de stress. Il y a des gens, tu es avec eux depuis un... Tu ne veux pas laisser cette relation, mais chaque fois que tu es avec cette personne, elle te stresse. Si c'est une relation amoureuse, par exemple, prenons cet exemple, tiens, parce que souvent c'est les relations intimes. Tu veux, chaque fois que tu es avec cette personne-là, c'est des problèmes. Vous disputez, il ne veut pas t'épouser. Et quand vous êtes ensemble, c'est toujours des histoires, des bêtises. La semaine dernière, l'un des frères de l'église vient me parler, et puis parce qu'il me dit, ouais, pasteur, il y a quelqu'un, tout ça, c'est des problèmes. Je lui dis, tu sais, ok, on peut essayer d'aider, tout ça, mais tu sais, tant que la personne ne décide pas de se séparer, on ne peut rien faire. On pourra parler, on pourra prier. Il faut que la personne renonce. Si la personne ne renonce pas, on ne peut rien faire. On peut m'appeler super pasteur, si tu veux, je ne vais pas y arriver. Gloire à Dieu. Il y a des activités. Dieu t'a déjà parlé depuis longtemps que tu devais laisser cette activité, tu devais laisser ce travail, tu devais laisser cette activité. Et tu continues à y aller. Et pourtant, tu es frustré d'y aller. 6. Le départ de ton lot te gardera des coups de colère inutiles. Je viens d'en parler d'ailleurs. Il y a des gens avec qui tu es. Le jour où tu vas te séparer d'eux, tu vas te rendre compte que les histoires, les disputes, c'est fini. Tu sais, le fait de se disputer tout le temps avec quelqu'un, le fait de tout le temps se mettre en colère, ça donne des soucis. Et puis, les cheveux blancs commencent à sortir plus vite que le temps. 7. Le départ de ton lot t'évitera de prendre des risques inutiles. Oui, des risques inutiles. Par exemple, tu peux avoir une relation avec quelqu'un. Cette personne ne veut pas t'épouser depuis longtemps. Tu as des doutes sur la personne. Mais tu ne sais pas que cette personne-là, si elle réagit comme ça, peut-être c'est parce que derrière, elle a autre chose. Il y a des gens comme ça aussi. 8. Le départ de ton lot te permettra de gagner plus de temps pour toi-même. Enfin, tu consacreras du temps à toi. 9. Le départ de ton lot te permettra de mieux te concentrer sur les affaires de Dieu et de son royaume. Car c'est ce que Dieu attend de toi. Tant que tu as toujours cet obstacle-là qui se tient entre toi, ce voile-là, tu ne peux pas te concentrer sur l'Église. Et pourtant, il n'y a pas de plus grande bénédiction que de servir le Seigneur dans son Église. Amen. Et enfin, 10. Le départ de ton lot augmentera ton intimité avec le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Ouais. Quand tu te sépareras de ce poids lourd, tu te sentiras léger. Et ton intimité avec Dieu va augmenter et il te sera plus simple d'entrer en possession de ton héritage. Amen. Dis avec moi, sépare-toi de ton lot, car ton héritage t'attend. On va incliner la tête. Seigneur, nous te bénissons encore. Merci pour ta parole. Merci pour l'administrateur royal qui administre notre héritage. Et qui n'attend qu'une chose, il attend le go, il attend la validation du tuteur royal pour dire que nous sommes prêts, matures, pour entrer en possession de notre héritage. Je voudrais que tu pries, et que tu pries juste quelques minutes, et que tu dis au Seigneur, Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence. Merci parce que tu me fais comprendre que non seulement il est important pour moi de connaître mon identité en Christ, mais il est aussi important pour moi de percer la parole afin que je comprenne la disponibilité de l'héritage que j'ai avec toi. Dans l'héritage, cet héritage-là, il y a beaucoup de choses. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à entrer en détail dans ce panier-là que l'on appelle l'héritage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition que je ne vis pas aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de mon héritage? Qu'est-ce que je mérite en tant que fils, en tant que fille, en tant que prince héritier, princesse héritière? À quoi ai-je droit? Dieu te le révélera au travers de sa parole. Voilà pourquoi la révélation de la parole est claire. Voilà pourquoi il est important de la méditer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole. Nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci pour tout, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci encore pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et que tu rendras parfaite, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous crions à toi. Et nous soupirons, Seigneur, après, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ta parole et de notre héritage. Merci, parce que tu nous accordes la grâce de nous séparer de notre lot, afin, Seigneur, d'entrer en possession de notre terre promise, de notre Canaan, afin, Seigneur, d'accélérer notre marche vers, Seigneur, notre terre promise, afin, Seigneur, d'augmenter notre intimité avec toi, afin de gagner davantage de temps, Seigneur, pour nous-mêmes, afin de ne plus prendre des risques inutiles, afin, Seigneur, de ne plus connaître les frustrations et les stress, mais, Seigneur, oh Dieu, d'entrer en possession de notre héritage, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur.
Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oui, merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
Merci pour la vie et pour la vérité, Seigneur.
Merci pour la vie.
La révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence, Seigneur.
Merci pour la
merci,
vie,
Père.
Pour la vérité.
Merci, Seigneur.
Et pour le chemin.
Merci, Père, encore pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu fais dans nos vies. À toi soit toute la gloire et la louange. Merci encore pour ces temps que nous avons passés ensemble. Maintenant que chacun, Seigneur, ô Dieu, repart sur le chemin du retour, Seigneur, accorde-nous d'abord la grâce de communier ensemble, mais qu'à chacun, Seigneur, tu puisses te révéler. À celui, Seigneur, et celle qui entendent, Seigneur, ces paroles pour la première fois, que tu te révèles à eux, Seigneur, et que tu leur fasses comprendre réellement l'amour que tu as pour eux, la grâce qui est sur leur vie et l'héritage qui est disponible pour eux. Que, Seigneur, tu nous accordes la grâce de croître en stature, en grâce et en sagesse, de comprendre ces choses et de pouvoir avoir une vie qui t'honore, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur.
Espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.